Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient évidemment comme tous les jours. RFI vous donne la parole dans un instant. Vos questions à la rédaction d'RFI, c'est votre rendez-vous privilégié avec nos journalistes, nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Tous les matins, la rédaction se mobilise pour répondre à vos questions et vous permettre donc de mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien appelez-nous, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Dans 30 minutes, vous réagirez à la situation au Bénin avec en toile de fond ce bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Cela fait maintenant 3 mois que les fonctionnaires béninois sont en grève. Pourtant, ces dernières semaines, le gouvernement a répondu favorablement à quelques-unes de leurs revendications, comme la hausse du salaire minimum ou encore l'annulation d'un concours de recrutement jugé frauduleux au ministère des Finances. Mais pour les syndicats, c'est insuffisant. Ils exigent surtout le limogeage du préfet et du commissaire central de Cotonou, qui sont accusés d'avoir violemment réprimé une manifestation en décembre dernier. Alors, que vous inspire ce blocage de la situation? Vous êtes nombreux à souhaiter témoigner, vous qui nous écoutez au Bénin. Nous vous donnerons évidemment la parole et nous verrons ensemble quelles peuvent être et quelles sont surtout les conséquences de cette grève interminable. 33 9 693 693 70. La première question de la semaine nous vient de Mankono. Mankono, c'est à 400 km d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Vamoussa.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Merci de nous écouter. Donc, je crois que vous êtes au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est bien ça?
Oui, c'est exact.
Vous avez, vous avez des questions concernant la récente visite du président chinois en France?
Oui, effectivement. Bon, je voudrais savoir pourquoi la France, en dépit du fait qu'elle soit un gros client de la Chine et entretient avec ce pays des relations diplomatiques solides depuis au moins 50 ans, n'arrive à capter qu'un seul % des investissements étrangers chinois. Je voudrais aussi savoir quels sont les contrats signés par le président chinois et si ces contrats vont changer la donne concernant les investissements chinois en France.
Ouais, 50 contrats signés la semaine dernière durant le séjour du président Xi Jinping pour une valeur tout de même de 18 milliards d'euros. Bonjour Clémence Denavy.
Bonjour Vamoussa, bonjour à tous.
Clémence Denavy du service éco des RFI. Comment expliquer effectivement le faible niveau des investissements chinois en France?
Oui, c'est vrai que ça y représente pas beaucoup, vous l'avez dit, hein, moins d'1% des investissements chinois en France, mais ils se sont multipliés ces investissements ces dernières années, plus 506% depuis 2007. Alors ça semble absolument énorme. Oui. Mais cette hausse spectaculaire ne correspond pas vraiment à une ruée chinoise sur la France. Elle ne repose en fait que sur un seul investissement qui a été fait en 2011. C'est l'entrée au capital du fonds souverain chinois dans la branche exploration et production du groupe GDF Suez.
Donc c'est le secteur énergétique.
Voilà, exactement, 2,5 milliards d'euros. On va retrouver sans doute le même sursaut dans les statistiques à la fin de cette année avec l'entrée du chinois Dongfeng dans le capital de PSA. En fait, attirer les investisseurs chinois en France, c'est un vrai souci pour les Français. Des efforts ont été faits pour les court séjour, par exemple, c'est nettement plus simple d'avoir un visa, 48 heures seulement aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, les nouvelles règles peinent à se mettre en place, c'est très lent. Il n'y a pas de guichet unique pour faciliter les démarches des entrepreneurs chinois qui voudraient s'installer en France. Le poids de la fiscalité décourage aussi et les mouvements sociaux. Et oui, les Français sont un peu trop contestataires au goût de certains investisseurs chinois.
On
trop
a donc
de grèves.
Une mauvaise image.
Une mauvaise image. Les clichés ont aussi la dent dure en France. Oui, figurez-vous, ce qui n'aide pas le dialogue. Un homme d'affaires chinois est un peu considéré comme l'homme qui va arriver, investir, mais potentiellement aussi tout acheter. Et ça, ça inquiète. Par exemple, lorsque le groupe de lait pour bébé Biostim, qui est un groupe chinois, a décidé d'investir dans la coopérative laitière d'Isigny-Sainte-Mère, qui est une coopérative de plusieurs producteurs qui se trouve en Normandie, ben, ça a provoqué un vrai choc pour les producteurs qui sont vraiment inquiétés. Ils se sont dit, ben, les Chinois arrivent, ils vont tout acheter. Eh bien non, il a fallu que le président de la coopérative soit très pédagogue pour rassurer tout le monde sur les intentions d'investisseurs chinois.
Voilà, donc la France doit améliorer son attractivité pour attirer davantage les investisseurs chinois. Clémence Denavy, Vanoussa nous le disait à l'instant, il y a eu beaucoup de contrats signés la semaine dernière à hauteur de 18 milliards d'euros. Est-ce que ces contrats vont permettre de réduire le déficit commercial?
Alors, ce sont des contrats qui ont été signés dans des domaines très traditionnels, l'aéronautique, le nucléaire, ça c'est vraiment des domaines dans lesquels on est très fort. Est-ce que ça va permettre de réduire le déficit commercial de la France? Non. simplement
bon,
non.
Parce ça mérite d'être clair.
Voilà, il faut être assez clair, parce que le déficit commercial de la France avec la Chine, c'est 26 milliards d'euros. C'est les deux tiers du déficit commercial total de la France. Les accords conclus aussi, surtout, et ça c'est ce qu'il faut préciser, sont des accords globaux, des partenariats qui impliquent et la Chine et la France. Par exemple, l'accord sur la cofabrication de 1000 hélicoptères, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Que ces hélicoptères seront construits en Chine, à Harbin et à Marignane, dans le sud de la France. Donc, les retombées en termes d'emploi vont être divisées par deux. L'usine de Tianjin, où sont construits des Airbus A320, va être agrandie, la production prolongée sur 10 ans. Donc, on se dit que c'est une bonne nouvelle, mais c'est bien en Chine que ça va se passer. Ensuite, on peut peut-être miser sur les secteurs qui sortent de l'ordinaire, notamment la ville durable, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Là, la France a une carte à jouer, puisque la Chine veut vraiment lutter contre la pollution, mais dans le même temps doit continuer à faire tourner ses usines, et elle mise donc sur une autre idée de la ville, durable, des déchets recyclés, une meilleure utilisation de l'eau, des usines, une meilleure vie pour les habitants de ces villes. Les Français ont donc proposé de construire un écoquartier à Shenyang, c'est au nord-est de la Chine, sur une superficie de 3 km², une vitrine, et si le concept séduit, ce qu'on espère bien sûr, il pourrait être décliné sur plusieurs villes en Chine. Le marché potentiel est absolument énorme, mais attention, il y a encore de la concurrence.
Qui ça?
En Allemagne notamment.
Ah, les Allemands notamment.
Sont très bons.
Bon, à suivre. Merci beaucoup Clémence Donavie d'être venue répondre à Vamoussa qui nous écoute donc au nord-ouest de la Côte d'Ivoire où il est 8h17. 33 9 693 693 70. Jonathan, bonjour.
Oui, Juan, bonjour. Je suis à Kinshasa. J'ai des petites questions que je voulais soumettre à vos experts maison par rapport à l'actualité dans mon pays, la République démocratique du Congo.
D'accord.
Qui est dominée ces derniers temps par le projet de révision de l'article 220 de la Constitution de notre pays, permettant donc à la commission qui a la charge d'organiser les élections ici chez nous, de passer du suffrage direct au suffrage indirect. Alors, j'aimerais savoir cet état des choses, en quoi ça favoriserait le pouvoir, en l'occurrence le président Kabila, débriguer un autre mandat, et aussi au niveau de l'opposition, est-ce qu'il y aurait déjà des stratégies en place pour barrer, si je peux me permettre, cette manœuvre du pouvoir.
Ouais. L'élection présidentielle de 2016, effectivement, en République démocratique du Congo, la question fait débat. Vous parliez de l'article 220, c'est cet article de la Constitution qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Et effectivement, c'est vrai que sur place, certains soupçonnent le président Joseph Kabila de vouloir modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. Léa Lisa Westerhoff est avec nous, elle est notre correspondante à Kinshasa. Bonjour Léa Lisa.
Bonjour Juan, bonjour Jonathan.
Alors c'est vrai que certains cadres du parti au pouvoir proposent, comme le disait à l'instant Jonathan, de modifier le système de désignation du chef de l'État pour lui permettre de briguer donc un troisième mandat. De quoi s'agit-il exactement? Expliquez-nous.
Bien, en fait, c'est finalement à peu près le même principe qu'au Burkina Faso. Vous en parlez tout à l'heure. Changer le mode d'élection du président, c'est finalement une façon de remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que si le Congo décide que le président sera désormais élu au suffrage indirect par les députés du Parlement plutôt que par l'ensemble de la population congolaise, le président sortant peut alors se représenter puisque le système de désignation du chef de l'État a tout simplement changé. Alors, vous parlez de l'article 220 qui limite le nombre de mandats, mais aussi la durée du mandat. Alors, en quelle mesure est-ce que ça contourne ce verrou, cet article 220? Tout simplement, car l'article 220 affirme que le principe de suffrage universel ne peut pas faire l'objet d'une réforme constitutionnelle, mais sans préciser s'il s'agit de suffrage direct ou indirect. Et c'est là, sans doute, que réside l'astuce, puisque par ailleurs, l'article 5 de la Constitution congolaise affirme que le suffrage est universel, il est direct ou indirect. Résultat, à en croire ces articles de la Constitution, il serait possible de modifier le mode de désignation du président de la République sans violer ce fameux article 220. Bref, quoi qu'il en soit, je tiens à le rappeler ici encore une fois, cette modification du mode d'élection du président de la République n'a pas été encore soumise à l'Assemblée nationale, pas encore sans doute, mais c'est clairement, ou sans aucun doute, l'un des scénarios élaborés par certains membres de la majorité présidentielle pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir et lui permettre de se représenter en 2016.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de proposition officielle à l'Assemblée nationale, mais en revanche, on se souvient que la semaine dernière, le président du Sénat a annoncé que la Constitution pourrait être modifiée pour les élections des députés provinciaux.
Oui, hein, c'est le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, qui l'a annoncé lui-même à l'ouverture des travaux de cette session parlementaire la semaine dernière. Et clairement, ça suscite déjà un énorme débat ici. L'idée, c'est donc de soumettre au Parlement une proposition de révision de la Constitution pour que les députés provinciaux soient désormais élus au suffrage indirect. C'est la commission électorale indépendante qui en avait fait la demande. Elle avance des raisons financières. Selon elle, ce serait moins cher, en fait, d'élire ces députés provinciaux par d'autres députés plutôt que par l'ensemble du pays. Ce qui est sûr, c'est que ça suscite une levée de boucliers ici, du côté de l'opposition notamment, qui craint, hein, en fait, que si on commence à toucher à la Constitution, à la réformer, eh bien cela ouvre la brèche, hein, pour d'autres réformes.
Et l'opposition qui dénonce déjà un coup d'État constitutionnel. En deux mots, Jonathan nous demandait tout à l'heure quelle sera la stratégie des opposants pour empêcher une éventuelle modification de la Constitution. Qu'en est-il, Léa ?
Eh bien, il y a eu d'abord, hein, toute une série de réactions outrées dans la presse, vous l'avez dit, dérive dictatoriale, coup d'État constitutionnel. Mais au-delà de ça, maintenant, l'opposition tente, en fait, tant bien que mal, de s'organiser et de parler d'une seule voix. Ça n'a visiblement rien d'évident, puisque ça fait une semaine, hein, qu'une coalition de partis d'opposition et d'organisations de la société civile, Sauvons la RDC, tente d'organiser une convention. Depuis ce matin, c'est fait, la réunion a démarré, elle va durer 3 jours. L'objectif, hein, c'est d'aboutir à une position et une stratégie commune pour mobiliser la population et tenter et faire échec à toute tentative de révision constitutionnelle. Mais d'ores et déjà, il faut le dire, ne participe pas à cette convention le premier parti d'opposition, l'UDPS de Tshisekedi.
Effectivement, on suivra quand même cette convention avec vous durant ces 3 prochains jours. Merci Léa-Lisa Vesterov d'avoir été en direct de Kinshasa. 33 9 693 693 70. Nous allons nous intéresser à la nouvelle politique migratoire du Maroc. Bonjour Abdel.
Merci, bonjour Juan.
Vous êtes à Marrakech.
D'accord, merci. Merci, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute.
Ici au Maroc, le roi Mohamed VI a décidé de régulariser des migrants. J'ai 2 questions à ce sujet. Quels sont les critères mis en place pour obtenir ces cartes de séjour?
Oui.
Deuxième question. Est-ce que d'autres mesures ont été prises pour aider les migrants?
Ah, c'est vrai qu'on assiste à une vraie révolution au Maroc depuis quelques mois, puisque, vous le disiez, le roi du Maroc a lancé une opération visant à régulariser les étrangers en situation illégale. Et ils seraient nombreux, hein, si on en croit les estimations des autorités marocaines. Il y aurait entre 30 000 et 40 000 migrants en situation illégale vivant sur le territoire marocain. Bonjour Léonard Vincent.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Rabat, au Maroc. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir cette fameuse carte de séjour?
Alors officiellement, sur le papier, il y a 5 critères. On peut obtenir une carte de séjour en répondant à au moins un des 5 critères. Alors le premier, c'est résider depuis au moins 5 ans au Maroc. Le deuxième, être le conjoint d'un Marocain ou d'une Marocaine. Le troisième, avoir un contrat de travail depuis au moins 2 ans. Le quatrième, être le conjoint d'un étranger en situation irrégulière. Et le dernier, qui est un peu plus flou, concerne les personnes vulnérables ou atteintes de maladies graves. Alors bien sûr, les autorités répètent que les commissions qui examinent ces dossiers, qui sont déposés par les migrants depuis le 2 janvier, ont des consignes de souplesse. Il faut dire qu'il n'est pas toujours facile, évidemment, et même parfois impossible d'obtenir des attestations pour prouver sa bonne foi et déposer son dossier quand on a passé plusieurs années dans un pays en tant que clandestin. L'ironie veut que parfois ce soit la police qui délivre des attestations prouvant qu'on est sur le territoire, par exemple, depuis au moins 5 ans, parce que tout simplement on a été arrêté. Alors pour l'instant, le taux de régularisation des dossiers qui ont déjà été déposés est autour de 30 à 40% des demandes. L'opération est conduite jusqu'au 31 décembre prochain. Il existe, pour ceux qui seraient refusés en première instance, un mécanisme de recours de ceux qui voient leur demande refusée. La question, évidemment, elle est inquiétante. Elle est de savoir ce qu'il adviendra de ceux qui ont été refusés en première instance et en appel, et bien sûr aussi ce qu'il adviendra de ceux qui n'ont pas demandé de dossier. Alors, ouais. S'agissant de la deuxième question, oui, le gouvernement marocain a présenté la semaine dernière 3 lois pour préparer l'avenir en termes d'immigration, des lois qui sont d'ailleurs plus ou moins alignée sur le droit européen. Une loi sur le droit d'asile, qui est une première dans la région et que salue par exemple le HCR. Une loi sur la protection des victimes du trafic d'êtres humains, donc des passeurs, qui criminalise l'organisation lucrative donc du trafic de migrants. Et une dernière loi sur l'immigration, c'est-à-dire les futures conditions d'entrée et de séjour au Maroc. Alors, il s'agit évidemment d'anticiper un programme d'intégration pour cette nouvelle population d'étrangers qui est invitée à rester et à travailler au Maroc.
En tout cas, le bilan de cette opération est pour l'instant bien mince. Hein. Vous disiez entre 30 et 40% des migrants vivant en situation illégale. Vous êtes sur place, vous êtes peut-être concerné par ce dossier. Appelez-nous, on a envie de vous entendre également. Nous vous donnerons la parole vendredi dans la Libre Antenne. Merci à vous, Léonard Vincent, correspondant d'RFI à Marrakech. Piotr Mosinski, du Service Europe d'RFI, est à mes côtés. Bonjour Piotr.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue dans ce studio. Nous accueillons Siedou, qui est en Côte d'Ivoire. Bonjour Siedou.
Bonjour Juan.
Vous avez des questions sur les conséquences de la crise en Crimée?
Oui, bien sûr, j'ai deux questions en lien avec la crise.
On vous écoute.
Ok, Juan, je voudrais savoir si une annexion par la Russie des régions russophones est-elle possible pour d'autres pays tels que la Moldavie et les Pays-Bas, Lettonie, Estonie, Lituanie?
Alors, la liaison téléphone n'est pas très bonne avec Abidjan, mais vous voulez savoir si l'annexion par la Russie de pays à minorité russophone est envisageable. C'est vrai que c'est ce que redoutent certains pays, et notamment la Moldavie, concernant la situation en Transnistrie, qui est une région séparatiste. Est-ce que le scénario criméen peut se répéter ailleurs, Piotr?
C'est vrai que les craintes là-dessus sont fortes, et l'élément clé pour comprendre l'attitude de Vladimir Poutine en la matière, c'est la déclaration d'il y a quelques années, reprises et développées très récemment, au moment de l'annexion de la Crimée, justement. Pour le président russe, la plus grande tragédie que le monde ait vécue au XXe siècle, c'était la chute et la dislocation de l'Union soviétique. En parlant du retour de la Crimée à la mère patrie russe, il a brossé un surprenant portrait bucolique de l'ancien empire soviétique, multilingue et multiculturel, où de nombreux peuples vivaient, selon lui, en harmonie, heureux d'appartenir à un grand État commun et ravi d'avoir le russe comme langue officielle dominante. Il a clairement laissé entendre qu'il faudrait revenir à cette époque heureuse. Pour Vladimir Poutine, des reconquêtes territoriales sont donc non seulement envisageables, mais souhaitables. Est-ce qu'il a de moyens de les mettre en œuvre du point de vue purement militaire? Oui, bien sûr. Du point de vue pratique, politique et économique, c'est beaucoup plus compliqué. Tout dépend de la ligne rouge que la communauté internationale sera prête et capable de lui imposer. L'OTAN a clairement indiqué que la ligne rouge, c'est pour elle la frontière de l'Alliance. Or, l'Ukraine n'en fait pas partie, la Moldavie non plus. Une intervention militaire directe de l'OTAN pour réagir à l'annexion de la Crimée ou de la Transnistrie n'est donc pas envisageable. En revanche, la question se poserait si la Russie décidait d'envoyer ses troupes en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie, officiellement pour défendre les fortes minorités russes qui y vivent, comme en Ukraine. À la différence de l'Ukraine et de la Moldavie, les trois pays baltes sont membres de l'Alliance Atlantique, donc du moins théoriquement, toute l'Alliance américaine en tête doit les défendre militairement en cas d'agression. Mais est-ce que les Occidentaux voudront bien mourir pour les pays baltes? Peut-être oui. Peut-être non.
Ouais. Piotr, est-ce que ces minorités ont manifesté ou manifestent leur désir de se rattacher à la Russie, comme c'est le cas par exemple en Transnistrie, en Moldavie?
Eh bien, clairement non. Depuis plusieurs semaines, les médias russes montrent des manifestations dans la partie orientale de l'Ukraine, dont les participants demandent un référendum semblable à celui qui a été organisé en Crimée. Mais quand on regarde de près, on voit que le nombre de manifestants dépasse rarement 2000 personnes. Et depuis que les services de sécurité ukrainiens ont bloqué l'arrivée des centaines de jeunes gens costauds, les touristes russes, la fréquence et l'ampleur des manifestations de ce genre a considérablement baissé.
Merci Piotr d'être venu répondre à Siedou. J'espère que vous avez pu entendre toutes les explications. Bonne journée à Abidjan. Tout de suite, le journal.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent et paiement de factures.